bien, ce soir, nous allons continuer dans ce thème de la persévérance. C'est le cas de le dire, on va persévérer dans ce thème. Et aujourd'hui, c'est la persévérance dans la prière. Pour ouvrir ce grand sujet, nous allons regarder dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, ces paroles du Seigneur Jésus, cette parabole. Luc, chapitre 18. Les premiers versets. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Aujourd'hui, on dirait me casser les pieds. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Cette question du Seigneur est grave parce que il y a un certain nombre de chrétiens dans le monde, mais quand il reviendra, est-ce qu'il y aura la foi chez ces chrétiens ? Est-ce qu'il y aura cette persévérance ? Est-ce qu'il y aura toujours cette prière de foi ? Ici, il donne donc la parabole de cette veuve. Les veuves étaient des femmes qui avaient peu de ressources. Hein. Il n'y avait pas de pension de réversion de leur mari comme aujourd'hui. Donc, elles étaient en général assez âgées et en difficulté financière. Et la Bible et la religion juive demandaient d'aider les veuves et les orphelins en priorité. Or ici, la pauvre veuve se retrouve en difficulté et le juge ne prend aucune peine de protéger ou de défendre cette veuve. Elle vient à lui et lui, il ne donne pas raison à sa demande. Et on ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est une parabole de toute façon, ce n'est pas important. Jusqu'au jour où il en a assez de voir cette veuve, on imagine que cette veuve vient le voir régulièrement. Elle vient au tribunal et dire « Fais-moi, donne-moi raison, fais-moi justice. » Pas qu'elle voulait avoir raison, c'est qu'apparemment elle avait été injustement traitée, peut-être qu'elle avait été trompée ou escroquée, je ne sais pas, peut-être une question d'héritage. Et le juge, non, 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 et un jour, il en a assez de voir cette veuve qui revient et dit, bon, peu importe, je ne crains pas Dieu, donc ça m'est complètement égal d'aider une veuve ou pas. Je n'ai d'égard pour personne, ça m'est égal ce que les gens pensent de moi. Alors, pour un juge, ce n'est pas très honorable, hein. Mais comme j'en ai assez de la voir revenir, je vais lui accorder ce qu'elle demande. Et Jésus ne dit pas ça pour qu'on aille casser les pieds de Dieu, parce que la prière, ce n'est pas casser les pieds de Dieu. Il prend ça comme exemple inverse. Il dit, Dieu, lui, n'est pas un juge inique. Dieu n'est pas comme ce juge. Il fera promptement, hein, c'est un mot fort, hein, rapidement, justice à ses élus, mais ses élus, comment prient-ils ces élus ? Ils crient jour et nuit. Et de quoi voulait-il parler ? Il voulait parler, je pense, des premiers croyants là, qui attendaient le règne messianique, qui subissaient déjà des oppositions, des persécutions, et qui criaient à Dieu, « Seigneur, viens, fais venir ton règne sur la terre !» Et ils avaient une telle ferveur, ils avaient le Seigneur avec eux, « Seigneur, c'est le moment !» Viens en gloire. Et il dit, Dieu vous fera promptement justice. Et donc, c'est une parabole pour nous encourager à toujours prier et ne pas se relâcher. Dieu n'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on lui répète. Il n'est pas sourd. Hein, la Bible dit que Dieu, son bras n'est pas trop court, son oreille n'est pas trop dure. Voilà. Nous, des fois, on n'entend pas bien, on a des problèmes d'audition. Dieu, lui, n'a aucun problème d'audition. Vous pouvez prier, murmurer, prier dans votre cœur, il vous entend. Le problème n'est pas là, on a besoin de persévérance pour d'autres raisons. Et on va les voir dans un instant. Mais ce qui est frappant dans la Bible, c'est le nombre d'exhortations de Dieu à prier avec persévérance. Très souvent, ça revient, priez avec persévérance, ne vous arrêtez pas, c'est important d'aller jusqu'au bout. Je vous donne des exemples. Alors, vous n'êtes pas obligé de chercher dans votre Bible, parce qu'il y a plusieurs exemples à la suite. Acte 1, 14, il est dit, hein, après que Jésus soit monté au ciel, « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison. » Donc les 10 premiers disciples, les 120 là, dans le chapitre 1 des Actes, attendaient la venue du Saint-Esprit et ils persévéraient dans la prière et l'oraison. L'oraison, c'est aussi une forme de prière. Hein. Et ils attendaient, ils avaient ces réunions de prière incessantes jusqu'à ce que la promesse de Dieu arrive. Pourquoi est-ce que c'est le fait d'avoir persévéré dans la prière qui a fait venir le Saint-Esprit? La Bible ne dit pas ça. Jésus avait promis le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit allait venir. Mais ils ont dû persévérer dans la prière pour attendre, pour ne pas se relâcher, pour ne pas perdre courage, pour ne pas oublier la promesse du Seigneur et pour préparer le terrain, justement, pour qu'il y ait d'autres qui acceptent le Saint-Esprit. Et les promesses de Dieu vont s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Les prophéties de Dieu s'accomplissent. Mais nous, croyants, on est appelés à persévérer dans la prière jusqu'à ce que la promesse arrive. Vous vous rappelez ce verset que je cite à chaque message? Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. Et il parle aussi dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, de ceux qui héritent des promesses par la persévérance. Dieu nous demande d'être persévérants et de saisir ses promesses par la foi. Un autre verset, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'épreuve, persévérez dans la prière. » Encore cette exhortation. Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps. Veillez à cela, il répète, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints, tous les chrétiens. » Donc, Dieu dit, en tout temps, vous devez prier, vous devez intercéder, vous devez supplier et veiller à ce que ce soit persévérant. Continuez, ne vous arrêtez pas dans ces choses. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Si on n'a pas compris après ça, c'est nous qui sommes sourds. Hein. Dieu veut qu'on persévère dans la prière. Parfois, nous avons du mal à comprendre ce qu'est la prière. On se dit, mais si Dieu sait tout et ses promesses vont s'accomplir, à quoi ça sert que je prie? Puisque de toute façon, sa volonté va s'accomplir. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'on participe à son plan, à sa volonté. C'est Dieu qui nous demande de prier. Il faut obéir. C'est Dieu qui nous demande de persévérer. Alors, on va persévérer à demander. Parce que c'est dans la prière, il y a deux aspects principaux. Il y a le fait de communiquer, de parler, d'échanger avec notre Dieu. C'est quelque chose d'assez personnel. Lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue, lorsqu'on lui ouvre notre cœur, on dit « Seigneur, voilà où j'en suis, voilà ce dont j'ai besoin. » Lorsque on cherche dans la prière la face de Dieu, ça c'est un premier aspect de la prière. Et il y a le deuxième aspect qui est l'intercession. Lorsqu'on se tient en faveur des autres, devant Dieu. Et dans ces deux formes de prière, il faut persévérer. Il faut chercher Dieu avec persévérance. Et il faut intercéder pour les autres avec persévérance. La prière persévérante a des fruits extraordinaires. Et ça doit nous encourager à persévérer. Vraiment des fruits extraordinaires. Et je pense qu'on est passé à côté de plein de bonnes choses parce qu'on n'a pas persévéré. On s'est arrêté avant d'obtenir ce qui était promis. On s'est arrêté, on s'est découragé, on s'est laissé aller au péché, à la tentation, au doute. Et au lieu de gagner des victoires, on s'est relâché. Je pense toujours à l'histoire de Jéricho, sûrement qu'on verra bientôt avec Jean-Alain. Dieu leur a dit, tourné une fois autour de Jéricho. Donc ils ont tourné une fois une journée. Et puis le lendemain, tourner encore. Alors, et tourner encore. Et encore. Et 3 jours, et 4 jours, et 5 jours. Bon. Ils auraient pu dire, bon, ça suffit, Josué, c'est n'importe quoi ton histoire. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Enfin, la guerre, on fonce dans le tas. Et puis voilà, arrête de nous faire tourner autour du pot. Non, ils n'ont pas murmuré cette fois-là. Ils ont obéi à Dieu et à Josué. Et ils ont tourné. Et puis le dernier jour, il fallait tourner 7 fois. Alors là, c'est beaucoup. Hein. C'était des heures et des heures de marche autour de cette... Et pendant ce temps-là, les ennemis devaient les regarder en rigolant. Alors, on se promène aujourd'hui? Ça se passe bien, votre petite promenade? Ils n'ont pas répondu. Et puis, alors, au dernier tour, au dernier moment, les murs ont tremblé et se sont effondrés. Et ils sont rentrés avec la victoire. Imaginez qu'ils se soient arrêtés au 6e tour du dernier jour. Hein. En disant, moi j'en peux plus, hein. Ça fait des kilomètres, ça fait des jours qu'on marche là, en plus c'est ridicule, j'ai l'air ridicule là. Non, j'arrête. Sans moi les gars, continuez-moi. Vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça. Ils arrêtent de prier, ils arrêtent d'aller à l'église, ils arrêtent de lire la Bible, ils arrêtent de continuer avec le Seigneur. Ils disent, j'en peux plus, c'est trop fatigant, c'est trop dur. Il y a des pasteurs qui arrêtent, des missionnaires qui arrêtent. Et le Seigneur dit, persévère. C'est pour ça qu'il le dit si souvent. Persévère, persévère. Regardez les premiers disciples qui ont persévéré dans le livre des Actes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et ils l'ont reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3000 juifs se sont convertis en une journée à Jérusalem, là même où Jésus a été crucifié, là même où on a dit « crucifie-le », 3000 hommes se sont convertis. Une 50aine de jours après la crucifixion, d'où vient ce miracle? Ça vient de Dieu, évidemment. Mais ils ont persévéré pour être là où le Saint-Esprit allait agir. Et ils ont vu les merveilles du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'exemples de grands réveils spirituels qui ont commencé et fini dans la prière. Et dans la Bible, déjà, on voit des exemples, hein, les réveils sous Ézéchias ou les réveils sous Daniel et Néhémie. En général, il y a quelqu'un qui commence à prier et à s'humilier devant Dieu, à dire « Seigneur, c'est pas possible que ça continue comme ça. On ne peut pas continuer. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu descendes, il faut que tu interviennes, il faut que tu agisses par ta grâce. On ne le mérite pas, mais viens, Seigneur. » Et Dieu répond et il agit, il fait des choses extraordinaires. Mais c'est arrivé plus tard aussi dans l'histoire de l'Église. Le pasteur Somerville a connu cet évangéliste qui s'appelle James Stewart, un Écossais, qui a vécu des réveils dans les pays de l'Est entre les deux guerres mondiales. Donc c'est il n'y a pas très très longtemps. C'était en Hongrie, en Pologne et dans ces pays-là. C'était des pays en général très catholiques, hein, la Pologne, même la Hongrie. Et il y avait des petites églises protestantes et évangéliques, mais qui n'avançaient pas très vite et il ne se passait pas grand-chose. Et puis parmi eux, un jour, il y a eu une femme ou un homme, peu importe, qui s'est mis à prier, qui a dit « Seigneur, je souffre de voir cette ville qui ne connaît pas l'évangile de Jésus-Christ, de voir des gens qui suivent une religion mais qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas sauvés. » Et ils se sont engagés, hein. Il parlait de cette petite ville où ils ont tenu une réunion solennelle dans l'église. Ils se sont consacrés entièrement à Dieu et ils se sont engagés à chercher sa face jusqu'à ce qu'il intervienne. Rien qu'avec ça, déjà, on pourrait s'arrêter là dans le message. Ils se sont d'abord consacrés à Dieu. « Seigneur, je te donne ma vie pour cette ville que j'aime, pour mes concitoyens, pour les âmes perdues. Et ensuite, Seigneur, nous allons chercher ta face jusqu'à ce que ta main touche les cœurs, jusqu'à ce que les consciences s'ouvrent. » Et ils ont fait ça pendant plusieurs mois d'intercession, de consécration, de prière. Et puis James Stewart a été invité à prêcher. La petite église était là, il a prêché dès le premier soir. Le Saint-Esprit est tombé, on peut dire, hein, sur les gens. Et il y a eu vraiment un mouvement du Saint-Esprit dans la ville. Et des dizaines de personnes, des familles, des proches, des voisins, tout le monde venait entendre l'évangile et se sont convertis. C'était un mouvement de Dieu, ce n'était pas du tout émotionnel ou provoqué par quoi que ce soit, c'était la réponse de Dieu. John Wesley, le leader méthodiste du 18e, raconte une réunion de prière extraordinaire qu'il a vécue. Lundi 1er janvier 1739, écrit-il. Messieurs Hall, Kinchin, Ingham, Whitfield, c'était son compagnon de prédication, Hutchins et mon frère Charles, nous étions présents au repas fraternel avec une soixantaine de frères. Vers 3 heures du matin, alors là déjà on se dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient à 3 heures du matin? C'est qu'ils avaient commencé à prier le soir et ils ne s'étaient pas arrêtés. Vers 3 heures du matin, alors que nous persévérions dans la prière, la puissance de Dieu est venue sur nous, de sorte que beaucoup ont crié d'allégresse et beaucoup sont tombés au sol. Dès que nous avons récupéré un peu de la crainte et de l'étonnement devant la présence de la majesté divine, nous avons éclaté d'une seule voix, nous te louons, ô Dieu, nous reconnaissons que tu es le Seigneur. Et cette réunion de prière a eu des fruits, hein, il y a eu des âmes sauvées ensuite. Tous se sont mis à prêcher dans les rues, hein, plus tard, comme ils le faisaient déjà, et beaucoup de gens ont été sauvés à travers la prédication de l'Évangile. Les Moraves, les frères Moraves, hein, qui vivaient donc en Bohême, c'est-à-dire l'ancienne Tchécoslovaquie, là, il y a toujours eu un ferment de chrétiens profonds, bibliques, missionnaires, avec l'esprit missionnaire. Et un historien morave écrit qu'en 1797, le 13 août, il raconte « Une grande soif de la parole de Dieu a pris possession de nous. De sorte que nous avons voulu avoir 3 réunions chaque jour, à 5 heures du matin, à 7h30 et à 21h. Chaque jour, ce n'était pas le dimanche, hein, c'était chaque jour. 5 heures avant d'aller au travail, 7h30 avant d'aller au travail aussi, et 21h à la fin du travail. Tout le monde désirait par-dessus tout que le Saint-Esprit ait le plein contrôle de sa vie. L'orgueil et la volonté propre, ainsi que toute désobéissance, disparurent, et un flot immense de grâce nous a tous balayés dans l'océan de l'amour divin. » Donc il écrit, hein, avec une plume un peu poétique, mais ça décrit un peu ce qu'il pouvait ressentir. 1885, ça c'est le 19e siècle, en Ulster, le révérend Moore a plaidé avec sa congrégation de rechercher le Seigneur d'une manière plus profonde, plus complète. 4 jeunes hommes se sont levés pour prier. Mac Quilkin, Minnie Lee, Wallace et Carlyle. Ils se sont réunis régulièrement le samedi soir dans l'ancienne école de Kells, cherchant le Seigneur pour une meilleure manifestation de sa puissance et pour satisfaire la soif de Dieu qu'ils avaient. Cette réunion de prière a été le début d'un puissant réveil qui a balayé tout l'Ulster, la région de l'Ulster. 1904, c'est le réveil du Pays de Galles, avec un jeune, tout jeune évangéliste, Evan Roberts, qui a été un des instruments. C'était le pays des mines, des mineurs, de l'alcoolisme. Il y avait déjà du foot, donc les gens passaient leur temps ou au pub à boire ou au foot. Les gens étaient très pauvres, ils mouraient très très jeunes à cause de la mine. Beaucoup de souffrance, beaucoup de violence aussi à cause de l'alcool. Et dans les églises qui existaient, les petites églises, Dieu a envoyé un réveil en réponse à la prière d'hommes et de femmes qui se sont mis à demander la grâce. Ils ont dit, on ne peut pas continuer à vivre dans ce pays, dans cette situation. C'est la misère matérielle, physique, morale, spirituelle. Et le Saint-Esprit a commencé à souffler dans les églises. Et ça allait d'une église à l'autre, ça sautait. Et les mineurs ont commencé à venir à l'Évangile et à être sauvés, les familles entières. Et les témoins et même des journalistes de l'époque, hein, ont raconté des choses, ils en revenaient pas, ils ont dit on n'a jamais vu une chose pareille. Les mineurs allaient chanter en chantant à la mine. Alors on sait, Dieu sait combien c'est dur d'être à cette époque, d'être mineur. Et ils revenaient en chantant et au lieu d'aller au pub après s'être douchés, ils allaient à l'église pour chanter les cantiques, pour prier. Ils étaient tous là le dimanche, au point que certains pubs ont fermé et certains matchs de foot ont été annulés parce qu'ils préféraient aller à l'église. En Corée, et j'ai ce petit livre qui s'appelle « Quand les Coréens prient ». Corée, début du XXe siècle, hein, à la même époque à peu près. À l'époque où la Corée n'était pas encore divisée, il y avait des églises presbytériennes, c'est-à-dire protestantes, et il y a des Coréens qui se sont mis à prier. Et un grand réveil a commencé à souffler sur la Corée. Des gens par dizaines venaient à l'église pour confesser leurs péchés, reconnaître leurs péchés. Des gens se réconciliaient en public. Ils priaient des heures, ils venaient écouter la Bible, ils avaient une soif de Dieu. Et puis, le gouvernement, enfin le communiste est arrivé, a fait sécession, a séparé la Corée du Nord. Aujourd'hui, on entend parler hein, de la Corée du Nord. Et malgré tout cela, des chrétiens clandestins en Corée du Nord ont continué à prier. Ils sont morts souvent pour leur foi. Et il y a toujours resté un petit reste hein, en Corée du Nord. On a du mal à imaginer comment ils ont pu se cacher parce que c'est vraiment un petit pays et le dictateur essaye de tout voir, de tout régenter, mais ils ont réussi et ils ont persévéré. Et aujourd'hui, il commence à y avoir des fruits avec des persécutions, mais il y a des fruits. Il y a beaucoup de Coréens du Nord qui vont au Sud et qui, là, rejoignent tout de suite les églises. Il y a des missionnaires hein, qui ont le courage d'aller en Corée du Nord. Il y a un Américain, je crois, qui avait été arrêté récemment. Et il y a une trentaine de Coréens qui devaient être exécutés aussi pour leur foi. Hein. J'ai toujours pas la réponse à savoir s'ils l'ont été. On n'a pas de nouvelles, évidemment, parce que les nouvelles ne circulent pas. Mais dans un pays comme la Corée, il y a aussi des choses extraordinaires. C'est en Corée du Sud, cette fois-ci, qu'il y a les plus grandes églises protestantes du monde. C'est des gens qui priaient des heures et qui ont vécu, pas seulement la prière, mais qui ont vécu un mouvement du Saint-Esprit où des témoins ont dit qu'on revenait au temps des apôtres. Voilà. On avait l'impression d'être au temps des apôtres. Toutes les vérités de la Bible étaient vécues en même temps par tous ses frères et sœurs. Ce témoin qui a écrit ce livre, hein, René Monod, un Français, je crois, « Je n'étais pas encore remis du choc reçu à la première heure d'intercession. » Donc il a assisté à une première réunion d'une heure. « Que j'assistais déjà à une seconde réunion semblable. Je me trouvais maintenant entraîné dans le sillage de la foule qui priait. » Pour la première fois, je compris ce qui est exprimé dans Actes 2, 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour ! Où en sommes-nous dans nos communautés chrétiennes de l'Ouest ? Nous prions pour un réveil et rien n'arrive. Est-ce que cela nous étonne ? À la troisième réunion de prière, donc je ne sais pas si vous voyez, il va à une première, il dit bon, ben voilà, maintenant on va... Non, il y a une deuxième, d'accord ? Deuxième, après la fin de la deuxième, ah, il y a une troisième. Je demandais aux frères, combien de fois par semaine votre groupe se réunit-il pour la prière ? Ils répondirent, tous les jours. Trois cercles de prière différents qui se réunissent tous les matins. Mais depuis quand le faites-vous ? Demandai-je. Depuis 5 ans, fut la réponse. Ça fait 5475 réunions de prière. Et il y avait environ 3000 personnes qui priaient ensemble. Et pareille chose ne devrait pas atteindre le trône de Dieu, demande-t-il. Et avec ces informations, mes renseignements n'étaient pas encore complets. Ce n'est qu'au cours d'un autre séjour que j'ai découvert les secrets merveilleux de cette communauté de prière. Pendant la nuit, il y avait un service d'intercession. Un groupe d'environ 100 chrétiens priait chaque nuit. Ils se relayaient et chaque soir, d'autres chrétiens venaient prier pendant la nuit. 100 personnes priaient jusqu'à l'aube. Une fois par semaine, du samedi au dimanche, 1000 chrétiens priaient la nuit entière. Pour la première fois, je compris ce qui est dit dans Actes 12, 5. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça la prière persévérante aussi. Alors vous me dites, est-ce qu'on doit maintenant aller prier toute la nuit dès ce soir ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut commander. Ce n'est pas quelque chose où on va dire, bon, maintenant, ça y est, on va copier les Coréens ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quelque chose qui devrait être naturel chez nous, d'avoir cette soif de Dieu, de prier, de persévérer. Et si on n'a pas soif de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai un autre livre qui raconte le réveil dans l'église de Brooklyn Tabernacle, l'église donc à Brooklyn, près à New York. Hein. Et c'est le pasteur Jim Simbala et sa femme qui sont venus là, dans cette petite église d'un quartier noir. Lui, il était blanc, donc déjà ça faisait un peu bizarre. Un jeune pasteur tout frais sorti de l'école. Et cette église était moribonde. Personne ne cherchait Dieu, personne n'était intéressé. Il venait là parce qu'il fallait venir là le dimanche. Et lui, au bout de quelques semaines, il a dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il est venu le dimanche matin au moment de prêcher. Et il a dit, mes chers frères et sœurs, ce matin, je ne vais pas prêcher. Je fais grève. Alors là, vous imaginez le pasteur qui fait grève de prédication. Tout le monde s'est réveillé pour le coup. Et qu'est-ce qui se passe? Et il dit, vraiment, si on vient à l'église, il faut être sérieux, il faut chercher Dieu. On ne vient pas à l'église parce que c'est l'heure ou parce que c'est la tradition. Est-ce que vous voulez chercher Dieu avec moi? Est-ce que vous voulez qu'on cherche Dieu ensemble? Mais là, je ne peux pas prêcher, c'est même plus fort que moi, je ne peux pas y arriver. Et il a dit, est-ce que vous êtes d'accord que je prenne la semaine qui suit pour chercher le Seigneur et dimanche prochain, je reviendrai avec un plan venu de Dieu pour qu'on se réveille? Alors ils ont dit d'accord. Donc toute la semaine, il est parti tout seul, il a prié des heures, des jours, il a lu la Bible et il est revenu. Il a dit, voilà ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Nous allons commencer une réunion de prière le mardi. Ça va être le soir, après le travail. On va prier le temps qu'il faut. Et trois ou quatre personnes sont venues le premier mardi. Donc, ils ont prié avec ardeur, avec ferveur. Et puis, ces personnes qui ont prié, ils en ont parlé aux autres. Ah, tu devrais venir, c'était bien. On a passé vraiment un moment. J'avais jamais vécu ça. Alors, il invite. Et puis la réunion grandit. Et puis finalement, tous les membres sont venus le mardi. Normalement, c'est le dimanche hein, que toute l'église est présente. Mais là, c'était le mardi à la réunion de prière. Et à partir de cette réunion de prière, Dieu a fait des choses extraordinaires. C'est que les familles de ces chrétiens ont été touchées par le changement de cœur et de vie. Parce que dans la prière, vous changez, vous êtes touchés par Dieu. Et par leur joie, quand ils sortaient de là, ils débordaient de joie. Et les familles ont commencé à venir à l'église aussi. Et puis, ils les ont invités à venir à la réunion de prière. Ils disaient, venez à la réunion de prière du mardi. Hein, c'est curieux, hein, parce qu'on va prier pour vous. Et là, dans cette réunion de prière, il y avait la présence de Dieu. Les gens sentaient l'amour de Dieu. C'était palpable. Et des âmes se sont converties dans la réunion de prière. Ils allaient chercher les gens dans la rue. À Brooklyn, c'était des drogués, des prostituées. C'était assez violent hein, dans le quartier. Ils sont allés les chercher avec l'amour de Dieu et les ont ramenés. Ils ont prié avec eux et les vies ont été changées. L'épouse du pasteur a fait une chorale où tous les membres étaient dans la chorale. Et cette chorale est encore connue aujourd'hui. Hein, elle fait des CD. C'est une immense chorale. Je ne sais pas s'ils sont 300 ou 400 dans la chorale. Et l'église est passée de 40, 50 à 3000. Mais ce n'est pas tellement ça qui compte. C'est que la prière a obtenu quelque chose. Et c'est Dieu qui l'a mis sur leur cœur. Alors pourquoi faut-il persévérer dans la prière? Bien, la Bible nous le dit, parce qu'il y a des ennemis spirituels. Éphésiens 6, 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le problème ne vient pas de Dieu. Comme on l'a vu, Dieu veut répondre promptement à nos prières. Le problème vient des démons, des esprits méchants. Chaque fois qu'on se met à prier, on entre dans les lieux célestes. On est dans une autre dimension, on n'est plus dans la dimension terrestre, on est dans la dimension céleste, spirituelle. Et là, il y a des ennemis qui vont tout faire pour nous décourager et pour arrêter la réponse. Rappelez-vous Daniel, qui a compris des choses dans la parole de Dieu, il s'est mis à prier pour Israël, pour le retour d'Israël, parce qu'ils étaient en captivité à Babylone. Et un ange est venu le voir plusieurs semaines après, trois semaines après. Il a dit, Daniel, au chapitre 10, « Tes paroles ont été entendues, c'est-à-dire tes prières ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Ça, c'est quelque chose déjà. Hein? « Mais le chef du royaume de Perse » Donc, il s'agit en fait d'un démon hein, qui veillait, qui était derrière le royaume de Perse, m'a résisté 21 jours. Donc, Dès que tu as prié, la réponse est partie. C'est un peu comme la poste. Hein. Le paquet est parti, mais il a été retardé. Non pas par Dieu, mais par les ennemis de Dieu. Quand nous prions, il y a toute l'influence des voyants, des médiums, des astrologues, des gourous, des sorciers, des faux docteurs, des fausses religions, des démons réunis, tous ensemble, des leaders anti-Dieu, hein, qui se mettent tous ensemble pour résister. Nous devons faire face à tout ça. Heureusement qu'on prie par le nom de Jésus-Christ qui est vainqueur. Hein. Sinon, on ne pourrait pas percer ce mur hein, infranchissable. Mais on peut percer ce mur, mais il faut persévérer. Comment est-ce que on casse le plus facilement un mur? Et si on est une dizaine de personnes, il y en a qui l'ont fait hein, à la Rode. Là. Est-ce qu'on prend chacun un petit marteau et on y va chacun de son côté? Non. Le mieux, c'est y aller à la masse. Et on tape au même endroit, au même endroit, au même endroit, au même endroit, puis à un moment, pouf, le mur lâche. Et la prière a ce côté aussi. On prie une chose au même endroit, tous ensemble au même endroit. C'est pour ça qu'il dit accordez-vous dans la prière, dans la réunion de prière. Hein. Et on persévère, on persévère, on persévère. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prier, nous, ensemble ? Mais on prie pour le salut des Parisiens, par exemple. On peut prier pour qu'il y ait une conviction de péché sur Paris. Dans nos familles, chez nos voisins, chez nos amis. Que cette conviction de péché les amène à chercher Dieu, à avoir soif eux aussi, dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé hein ?» Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière, à cause de la résistance spirituelle. Et puis aussi pour ne pas s'endormir. Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans l'esprit, on peut dire « Oui, moi je veux des victoires pour le Seigneur, je veux avancer, mais la chair, le corps et l'âme, des fois, s'endorment. » Et nous tiennent en arrière, nous tirent en arrière. Alors, dans la prière, vous pouvez vaincre tout ça. Vous pouvez surmonter votre propre chair hein, par la prière. Dire, Seigneur, je veux m'attacher à toi, je veux continuer, persévérer. Voilà l'importance de persévérer. Et comment peut-on arriver à persévérer ? Mais, vraiment, une chose que je voudrais retenir, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Persévérer tout seul est très difficile. D'où l'importance d'être ensemble, d'être une église, d'être des frères et sœurs et de prier ensemble aussi. Rappelez-vous le livre de l'Exode, chapitre 17, la bataille contre Amalek. Josué était dans la vallée, luttant contre l'armée d'Amalek, se défendant contre ses attaques. Et Moïse était en haut et il priait pour Josué et Moïse, à un moment, s'est fatigué d'avoir les bras en l'air, c'est très fatigant, et il baisse les bras, et deux hommes viennent, Aaron et Hur, soutenir ses bras, et l'aider à prier, en fait. C'est ça l'idée, c'est pas juste les bras, c'est... ils l'ont aidé à prier. On a besoin de prieurs, on a besoin de personnes, d'hommes et de femmes qui prient, qui persévèrent, pendant que la bataille a lieu. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de victoire. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage d'Exode. Chaque fois qu'il baissait les bras, la Bible dit, Amalek prenait le dessus. Ça, c'est très fort, cette idée. Hein. C'est que toute victoire se gagne dans la prière. On peut s'agiter, on peut faire plein de choses, on peut être le plus éloquent ou le plus, je ne sais pas quoi, le plus fort, le plus intelligent, le plus riche, avoir plein d'argent. Ça fait zéro. Dans le domaine de Dieu, dans le royaume spirituel, c'est zéro. La prière, c'est tout. Et après, quand on va, quand on agit, il y a la puissance de Dieu qui nous accompagne. Ce qui nous aide aussi à persévérer, en plus des frères et sœurs qui nous accompagnent, c'est le but, d'avoir le voir le but. Genèse 32, 26, c'est la phrase de Jacob, qu'est-ce qu'il dit ? En combattant contre l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Jacob a persévéré jusqu'à ce qu'il soit béni par Dieu. Et si on a ce but, Seigneur, je veux la bénédiction. Seigneur, je veux la plénitude de Dieu. Je veux voir les âmes sauvées. Je veux voir des fruits dans ma vie. Je ne veux pas rester stérile jusqu'à la fin de mes jours. Mais là, on persévère. On prie avec persévérance. La question qui nous est posée à la fin de ce message, c'est est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout? Parce que persévérer, ça veut dire aller jusqu'au bout. Est-ce que je veux la plénitude de Dieu dans ma vie? Est-ce que je veux vivre la vie chrétienne normale, remplie du Saint-Esprit, d'amour, de joie, de paix, de fidélité, de patience, comme on l'a appris, de bienveillance? Est-ce que je suis prêt à abandonner les rênes de ma vie au Seigneur? Est-ce que je veux que Dieu déchire les cieux et ébranle la terre et qu'il envoie une conviction de péché? Parce que quand Dieu envoie une conviction de péché, ça commence par nous, les chrétiens. Dans tous les réveils, ça commence par les croyants qui réalisent à quel point ils sont loin de Dieu, à quel point ils passent à côté de plein de choses. Et après, ça déborde sur les incroyants. Est-ce que nous sommes prêts à résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, comme dit la Bible? C'est-à-dire, est-ce que on est prêt à faire la guerre? Jésus a dit, si quelqu'un va faire la guerre ou va construire une tour, il faut qu'il calcule. Il y a une guerre spirituelle terrible. Est-ce qu'on est prêt à y aller? Pour ça, il faut prier avec persévérance. Il ne faut pas s'arrêter. La prière, ce n'est pas une sorte de loisir dilettante. La prière, ce n'est pas, tiens, on va passer 5 minutes dans la prière, ça va être sympa. La prière est un combat. Dès qu'on se met à prier, il y a un combat qui arrive. Il y a l'ennemi de Dieu qui arrive pour nous arrêter. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre dans la prière? Est-ce que nous nous contentons de maigres victoires, de fruits rabougris? Est-ce que nous voulons rester avec des belles phrases, des beaux rêves spirituels, mais des beaux rêves quand même? Une bonne volonté, mais qui ne va pas très loin. La bonne volonté, dit la Bible, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Achevez donc maintenant d'agir. On peut avoir la bonne volonté, mais pas d'action. Et il faut avoir l'action qui suit. Ça, c'est dans la prière, dans le combat. Alors le Seigneur nous dit, « Conservez jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Que le Seigneur nous donne cet esprit de prière, de persévérance, et qu'il exauce au-delà de ce que nous demandons ou pensons. On peut terminer par...